Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les appels au calme se multiplient avant la journée de samedi. Mise en garde de l'Élysée, des milliers de personnes sont prêtes à casser et tuer. À droite, Laurent Wauquiez baisse d'un ton. Les syndicats appellent commun des grandes centrales. La colère est légitime, mais nous dénonçons toute forme de violence. Appel au calme aussi à destination des forces de l'ordre. Il est lancé par notre invité Maître Liénard, avocat de beaucoup de policiers. Il entend le épuisement et il redoute les dérapages samedi. Mais dans les lycées, la mobilisation continue, peu d'établissements concernés, mais des manifs violentes. Le gouvernement multiplie les appels à ne pas monter à samedi. Paris, qu'en disent les gilets jaunes de la première heure? Patricia, par exemple, à Brest, l'appel à rester calme, qu'en dit-elle?
Alors ça, c'est fait sciemment par le gouvernement pour que les gens aient peur et ne descendent pas dans la rue samedi. Nous sommes en marche, comme vous nous l'avez demandé, hein, monsieur Macron, et on n'est pas prêt de s'arrêter. On veut faire peur, il ne faut pas que les gens descendent dans la rue, mais justement, ne tenez pas compte de ces discours et descendez dans la rue et restez pacifiques.
Voilà pour les ronds-points, les routiers entrent dans la danse. FO et CGT confirment l'appel à la grève à partir de dimanche soir chez les routiers. Dans ce journal, nous examinerons également la nouvelle concession envisagée au gouvernement, une prime de fin d'année pour les salariés défiscalisée. Les petits patrons ne disent pas non. Dans l'actualité encore, négociations de paix au Yémen peuvent-elles donner quelque chose? Angela Merkel, le début de la fin, congrès de son parti la CDU à partir d'aujourd'hui pour élire son successeur à la tête de mouvement. Les plaintes pour cambriolage en forte hausse. Le PSG patouille en championnat. Encore un match nul. Que se passe-t-il? La météo. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Pas beaucoup de place pour le soleil aujourd'hui Élodie.
C'est vrai. Alors on ira le chercher autour de la Méditerranée puisqu'ailleurs c'est souvent gris, quelques pluies éparses, un peu plus nombreuses du nord des Alpes jusqu'aux Vosges et près de la Manche. Tout ça en douceur avec 11 à 19 degrés.
Plus de détails tout à l'heure. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
Inter.
Bientôt trois semaines complètes de manifestations des Gilets jaunes. Et depuis lundi, la contagion a gagné en partie les lycées. En partie, 5 à 10% des établissements concernés. Mais les manifestations sont souvent violentes. Des abribus cassés, des feux de poubelle, des affrontements avec la police, des voitures renversées. Aujourd'hui, les syndicats lycéens appelaient à une mobilisation générale. Parmi les points chauds, l'Académie de Marseille, quelques 25 lycées concernés. Slogan contre la réforme du bac et Parcoursup, solidarité avec les Gilets jaunes. Il y a aussi la volonté d'en découdre avec la police. À Marseille, Olivier Martoc.
Le lycée Perrier, rue Paradis, dans les beaux quartiers de Marseille, est fermé. Devant les grilles, des banderoles, mais surtout des poubelles enflammées.
Il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à mettre le feu à des poubelles, et c'est là que c'est parti n'importe comment.
Ils ont cramé des poubelles, ils ont lancé des dos, ça fait des explosions et tout.
À part discréditer le mouvement, la violence n'était absolument à rien.
Faut être stratégique, faut être malin, donc la violence urbaine ne sert qu'à donner des justifications au pouvoir en place pour qu'ils puissent nous lyncher.
Les policiers restent à l'écart, une cinquantaine de jeunes venus de plusieurs lycées professionnels cherche manifestement l'affrontement.
Vous êtes masqué
Et ça, monsieur, c'est parce qu'on connaît les méthodes de la police. Il y a un collègue à moi, son nez, il a explosé juste à côté de moi. Il est en sang. Mais oui, c'est la violence.
Monsieur, est-ce que c'est normal qu'on ait des mineurs? Ils nous gazent directement.
Il nous faut les gentils à la télé.
Hey, vous allez les chercher quand même.
C'est plein de mérite. C'est eux qui tirent.
Je voulais dire que tous les gens qui pensent qu'on fait ça juste pour pas aller en cours, je suis venu à 7h30 pour faire la manifestation. Je le fais pour la réforme du bac. Et nous, on veut se faire entendre, tout simplement.
Ce matin, une nouvelle fois, lycéens et policiers ont joué au chat et à la souris dans les rues de Marseille, avec, comme devant Perrier ou aux abords de la gare Saint-Charles et sur le Vieux-Port, des affrontements sporadiques, les conteneurs renversés et les poubelles brûlées se comptent par dizaines. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Des lycées et du grabuge, des lycéens et du grabuge dans les rues d'Annecy, du Mans, de Béziers, Montbéliard, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Pau, Rouen, Mulhouse et puis la région parisienne, une centaine d'établissements concernés au moins. Ça chauffe ou ça a chauffé en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, au Raincy, au Blanc-Ménil. Et c'est au Blanc-Ménil que nous retrouvons Rémi Brancato en direct avec nous. Rémi, tout est rentré dans le calme. Les lycéens, lycée Mozart en particulier, se sentent gilets jaunes parce que, comme les gens sur les ronds-points, ils ont le sentiment, Rémi, de n'être jamais écoutés.
Oui, ici, ce n'est pas la première fois que les élèves du lycée Mozart se mobilisent. Ce matin, ils ont dénoncé la réforme du baccalauréat, les difficultés liées à Parcoursup pour accéder à l'université, mais aussi leurs conditions d'enseignement. Un lycée surchargé, des préfabriqués pour désencombrer les salles, des problèmes de chauffage, nous disent-ils. Il y a eu plusieurs blocages depuis la rentrée de septembre. Quasiment toutes les semaines, nous glissent des enseignants. Mais ce matin, la tension est montée d'un cran. De nombreuses poubelles incendiées, un brasier au milieu de la rue. Un prof a même dû intervenir pour empêcher l'incendie d'une voiture. Les pompiers ont été repoussés plusieurs fois. Des dégradations commises par une minorité. Les autres lycéens sont calmes dans l'ensemble, mais sans cautionner. Beaucoup disent comprendre. Une lycéenne explique avoir manifesté samedi dernier dans Paris avec les gilets jaunes et ses parents. Elle y retournera samedi. Le point commun entre ces lycéens de Seine-Saint-Denis et la mobilisation actuelle des gilets jaunes, eh bien pour eux, c'est ce sentiment, vous le disiez, de ne pas être écoutés et même tout simplement entendus lorsqu'ils revendiquent. Et ici, c'est un sentiment qui dure depuis plusieurs mois.
Rémi Brancato en direct du Blanc-Ménil, Seine-Saint-Denis. Depuis hier, le ministre de l'Éducation alerte sur la grande violence du mouvement dans les lycées. On comptait hier soir 3 blessés dans ces manifestations, des adolescents touchés par des tirs de flashball ou équivalent. La police des polices est saisie après qu'un ado a été touché grièvement à la tête près d'Orléans. Depuis samedi, les manifestants, gilets jaunes en particulier, n'échappent pas à la question « Est-ce que vous approuvez, comprenez ou commettez des violences ?» Violences qui émaillent ce mouvement depuis le début, des dizaines de blessés, 4 morts. Et à l'approche de la journée de samedi, après-demain, l'Élysée met en avant le risque d'une très grande violence. Ce week-end, des milliers de personnes qui s'apprêteraient à rejoindre Paris pour casser, voire tuer, selon la présidence. Et l'une des figures du mouvement, Éric Drouet, ne fait rien pour apaiser les esprits, lui qui appelle à entrer dans l'Élysée. Alors qu'en disent ceux qui sont autour des ronds-points depuis 3 semaines? Reportage de Delphine Evenou pour France Inter à Brest, rond-point de Pénarcleuse.
Je m'appelle Patricia, j'ai 48 ans. Pour l'instant, je suis sans emploi en attente d'un poste. Tout le monde doit être dans la rue samedi. On a créé une brèche, il ne faut pas qu'on lâche. Il y a 10% de violence et les 90% pacifiques, on ne les montre pas. Donc il faut aller à Paris, tout le monde à Paris, et on n'a pas peur.
Mon prénom c'est Dominique, hein, j'ai 62 ans, un peu plus, je suis à la retraite. Ils ne savent pas si ça sera violent ou pas. En tout cas, les jeunes, s'ils vont à Paris, c'est surtout pour ne pas être violent, pour manifester leur mécontentement. Hein. Et puis, ben voilà, en disant ça, y a beaucoup de gilets jaunes peut-être qui vont faire marche arrière, qui n'iront peut-être pas à Paris, parce que c'était quand même très violent samedi dernier.
Moi, je m'appelle Christelle, j'ai 39 ans, et donc je m'occupe de mes enfants qui sont atteints de maladies génétiques. Dès l'instant qu'on se fait attaquer, c'est normal d'avoir des gens qui se défendent. Je pense que ça se passera bien. Maintenant, à eux de faire leur travail correctement. Quand vous voyez quand même les gens qui sont touchés, c'est pas non plus anodin, quoi. C'est ce qui a provoqué les gens, je pense, de samedi en samedi. Ça a monté crescendo.
Kevin, 28 ans, et je suis responsable de centre de loisirs. La violence, ça n'est pas nécessaire. Après, il faut reconnaître que ça nous a servi. Voilà. Les gens sont en souffrance, forcément, on en arrive à des extrémités, mais ce qui est ironique, c'est que ce qu'ils nous ont donné là comme solution, ils nous les auraient donné il y a 2 semaines, il n'y aurait rien eu de tout ça. C'est assez dommage d'en arriver là.
Voilà pour ce reportage de Delphine Evenou à Brest, à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Début d'incendie et tentative d'incendie mardi du Centre des Finances Publiques. Un groupe qui se présente comme faisant partie des Gilets jaunes revendique cet acte auprès du journal régional La Montagne. Quelles nouvelles concessions le gouvernement peut-il encore faire? Les taxes carburant, c'est annulé pour 2019, pas de hausse du gaz ni de l'électricité. La question des salaires figure parmi les revendications des Gilets jaunes et d'une partie de l'opposition ou des syndicats. Ouvrir des discussions salariales. On n'en est pas là, mais le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a ouvert une nouvelle piste ce matin sur France Inter. Pourquoi pas une prime exceptionnelle de fin d'année?
Tout à fait, ça fait partie des choses. Moi, j'en appelle aussi au patronat, aux entreprises, effectivement, de pouvoir prendre part à la question qui a été posée par les Français, du pouvoir d'achat. Et si les entreprises, et nous les encourageons à le faire, puissent en effet mieux redistribuer la différence entre le capital et le travail, plus d'argent pour les travailleurs, j'y suis personnellement favorable. Et nous aurons l'occasion, j'imagine, sous l'autorité du Premier ministre, de voir dans les prochains jours comment nous pouvons, dès l'année prochaine, effectivement, défiscaliser ces primes.
Gérald Darmanin avec Léa Salamé ce matin sur France Inter. Aux entreprises, donc, de faire un petit effort, elles aussi, et l'État défiscalisera. Qu'en disent les patrons? Écoutez, François Asselin, président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, eh bien, il ne dit pas non.
Quand c'est possible, lorsque c'est possible, puisqu'une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle a tout simplement gagné, eh bien pourquoi pas imaginer une prime qui soit nette de taxes, nette d'impôts, il ne faut pas oublier l'un et l'autre, jusqu'à hauteur de 1 000 euros par an, qui pourrait être distribué en plusieurs fois. Ça pourrait être du pouvoir d'achat direct, et puis, vous savez, c'est de l'argent qui souvent retourne à l'économie. Donc, ça pourrait être une mesure tout à fait concrète, acceptée et acceptable pour les acteurs économiques que nous sommes.
Propos recueillis par Manuel Ruffez et à l'instant confirmation du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les organisations patronales sont prêtes à s'engager pour le versement de primes totalement désocialisées, pas de charges sociales, et défiscalisées aux salariés. Le gouvernement fera le nécessaire pour que ça s'applique le plus rapidement possible, dit Bruno Le Maire. Autre information de dernière minute, ce chiffre 146 interpellations devant un lycée de Mantes-la-Jolie après des incidents. C'est l'agence France-Presse qui nous dit cela. Source police Mantes-la-Jolie, donc dans les Yvelines. Une partie des lycéens et des routiers rejoignent la contestation. Confirmation aujourd'hui, la CGT, force ouvrière chez les routiers, appellent à la grève à partir de dimanche soir. Ils craignent la remise en cause d'un avantage. Les routiers ont des heures supplémentaires mieux payées que les autres. Il n'est pas question de remettre en cause cet avantage, assure le gouvernement. Mais les camionneurs veulent des écrits. Écoutez Jean-Marc Lambert de la CGT Transport.
Nous exigeons que les patrons s'engagent par un accord qu'on peut faire ce soir, demain matin, à ne pas toucher à l'ensemble des indemnisations qui touchent à la rémunération des conducteurs. Nous ne sommes pas dans le mouvement Gilets jaunes à proprement dit, mais bien entendu, il y a une philosophie dans le mouvement des Gilets jaunes quand ils revendiquent une meilleure rémunération. Nous sommes là aussi sur un aspect spécifique métier dans le transport routier. Si on touche à l'indemnisation, bien entendu, il y a un impact négatif sur les revenus. S'il y a un mouvement qui est maintenu pour dimanche soir, la forme du mouvement, les salariés du transport routier qui seront en grève, ils seront là où ils travaillent, sur les routes. Donc, s'il y a des salariés qui se rassemblent sur le bitume, Les poids lourds ne passeront pas, bien sûr.
Un propos recueilli par Hélène Philly. Voilà pour les routiers, les syndicats en général. Maintenant, signe de la gravité du mouvement, les grandes centrales prennent une position commune. Elles étaient réunies ce matin au siège de la CFDT. Ce n'est pas si fréquent. Ces syndicats dépassés, eux aussi, par le mouvement des Gilets jaunes. Que disent-ils? D'abord, que la colère est légitime, pas la violence. Voilà pour le message du jour. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Au-delà de cela, pour les syndicats, et c'est sans doute leur préoccupation principale, c'est peut-être le moment de négocier. Que disent-ils?
Oui, réunion inédite pour un appel solennel au gouvernement. Ouvrez de véritables concertations larges et en toute transparence. Message pour le moins explicite pour un appel à un changement de méthode du gouvernement face à des gilets jaunes qui rejettent et critiquent les syndicats. L'enjeu est de se relégitimer à condition qu'un véritable espace de négociation soit bel et bien ouvert par le gouvernement. Appelle donc à négocier sur le pouvoir d'achat, les salaires, le logement, le transport, l'accès aux services publics avec des sensibilités différentes. La CGT et les forces ouvrières sont plutôt sur une revalorisation du SMIC, là où l'UNSA et la CFDT demandent l'ouverture de négociations salariales dans les branches et les entreprises, peu importe. Deux grandes idées font consensus. Le patronat doit bien répondre à cet appel, prendre ses responsabilités. Et puis côté recette, le système de protection sociale doit être préservé, car en coulisses, les centrales syndicales sont irritées de voir une partie de leurs militants dénigrer les impôts et les taxes avec des gilets jaunes sur les ronds-points. La deuxième ligne commune à tous est une nouvelle fiscalité qui doit s'imposer et qui doit imposer les plus riches pour redistribuer du pouvoir d'achat.
Dans ce qui est un des fils rouges de ce journal, appel à manifester ou appel au calme, on notera le changement de pied d'un des responsables de l'opposition, Laurent Wauquiez. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Service politique de France Inter. L'opposition globalement accusée par le gouvernement de mettre de l'huile sur le feu depuis le début. Eh bien, ces dernières heures, Laurent Wauquiez a baissé d'un ton.
Oui, depuis le début, Laurent Wauquiez s'est affiché comme un fervent soutien du mouvement des Gilets jaunes, qu'il a même rencontré plusieurs fois. Et régulièrement, il a soufflé sur les braises, comme ce 28 novembre dernier sur le plateau de CNews.
Dans un pays qui est en train de s'enflammer, je suis préoccupé par cette évolution. Je suis inquiet de cette coupure qu'Emmanuel Macron est en train d'installer.
Et puis, premier changement de ton de Laurent Wauquiez, dimanche, au lendemain des manifestations qui ont été très violentes et qui ont touché son ancienne ville du Puy-en-Velay. Il est l'invité du journal de TF1 et sa voix est blanche.
Vous savez, on est un département calme. L'incendie de la préfecture, les scènes d'affrontement, on n'a jamais connu ça. Et si on veut éviter l'engrenage de la violence, il faut rétablir l'ordre. Parce que les images sont choquantes, qu'elles ont marqué tout le monde.
Le président du Parti Les Républicains revient à ses fondamentaux, la droite et la sécurité. Laurent Wauquiez est beaucoup moins dans le soutien du mouvement, avec un revirement encore plus évident ce matin sur Europe 1.
J'appelle le mouvement des Gilets jaunes que j'ai toujours soutenu à ce qu'il combatte toute forme d'expression de violence samedi prochain, parce que c'est indispensable. parce qu'on ne peut pas connaître un nouveau samedi noir.
En fait, les revendications des Gilets jaunes sont devenues beaucoup trop sociales pour l'électorat de Laurent Wauquiez. Un SMIC à 1800 euros, le retour de l'ISF, le patron de la droite est tout simplement dépassé. Il est obligé politiquement de lâcher.
Et à gauche, PS, France Insoumise et PC vont déposer ensemble une motion de censure lundi prochain contre le gouvernement. C'est une des informations du matin. Quelle est l'influence des politiques ou syndicats qui appellent au calme? Des dizaines d'appels à manifester samedi fleurissent sur les réseaux sociaux. Beaucoup donnent rendez-vous sur les champs Élysées, le spectre d'un nouveau face-à-face entre manifestants et policiers se précise. Des policiers qui iront sans doute un peu plus au contact que la semaine dernière. Des policiers déjà à bout après la journée très éprouvante de samedi dernier. Alors faut-il craindre le pire? Invité de ce journal, un homme parfois surnommé l'avocat des flics. Bonjour, maître Laurent-Franck Liénard.
Oui, bonjour.
Vous défendez très régulièrement des policiers soupçonnés de violence. Depuis samedi dernier, vous êtes en contact avec beaucoup de gendarmes, policiers, CRS. Que vous disent-ils?
Ils me disent qu'ils ont été confrontés à une situation inédite en termes de violence de l'affrontement. Alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, ils s'attendaient à une manifestation compliquée, mais pas du tout que l'on vienne casser du flic. Et là, on est venu casser du flic, vraiment, voire tuer du flic. Et ils me disent que à plusieurs reprises, ils se sont sentis en état de légitime défense. Ils ont pensé ouvrir le feu sur ces manifestants.
Vous leur lancez un appel sur Facebook, on y reviendra dans un instant, maître Liénard. Il y a notamment cette phrase « Je sais combien vous êtes seul face à eux ». Qu'est-ce que signifie cette phrase? Expliquez-nous.
Quand on est à 10, 15 dans une colonne et que l'on voit une déferlante de plusieurs centaines de personnes extrêmement violentes, je vous assure que c'est un grand moment de solitude pour celui qui est sous le casque. Et c'est un homme, hein, c'est un homme avec sa formation, avec ses compétences, mais aussi avec sa fragilité, aussi avec sa fatigue. Et c'est un énorme moment de solitude quand on voit cette haine, cette violence. Donc le policier, il est véritablement seul et il n'a comme soutien à ce moment-là que le camarade qui est à côté.
La haine, la violence anti-flic, elle a vraiment passé un cran samedi dernier?
Elle a passé plusieurs crans. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Ça fait plusieurs années que l'on dit que les verrous ont sauté. On tire sur les policiers, on percute les policiers. Et là, samedi, vraiment, c'était redoutable. L'affrontement, le déchaînement était effrayant. C'est inédit.
Maître Liénard, vous êtes un homme de droit et au fond, le sens de votre message sur Facebook, c'est de les appeler au calme, eux aussi, les policiers, les gendarmes, les CRS.
Oui, ils ont une très grande responsabilité parce qu'ils portent une arme létale. Et quand on porte une arme létale et qu'on pense s'en servir, il faut savoir ce que l'on fait. Et jusqu'à présent, ils ont montré vraiment des capacités professionnelles et une retenue qui sont exemplaires. Maintenant, il va falloir qu'ils continuent à être exemplaires dans l'usage de l'arme létale. Et s'ils m'en parlent, s'ils me disent « on a pensé tirer », c'est que ça les travaille vraiment. C'est qu'ils pensent qu'à un moment, ils risquent d'être en devoir de sortir leur arme létale et de donner la mort. Et je leur dis attention, donner la mort c'est grave, c'est un geste extrêmement grave, mais c'est un geste encore plus grave dans le contexte social dans lequel nous sommes. Parce que un tir sur un manifestant aujourd'hui aurait des conséquences que nous ne maîtriserons pas.
Une arme létale, c'est une arme qui tue, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'adjectif. Maître Liénard, on a aussi vu, depuis samedi, des images choquantes de policiers qui eux-mêmes voulaient se venger, ou en tout cas en découdre. Il y a déjà des plaintes pour d'éventuelles violences policières. Il y a des manifestations de lycéens avec des lycéens blessés. Les bavures, elles ont peut-être commencé.
Alors, bavure, c'est un terme journalistique. Oui. Moi, je suis un technicien, je suis un juriste. Je parle d'usage de la force légitime ou pas. Et effectivement, ce que nous avons vu en vidéo semble être de l'usage de la force illégitime. Je dis semble, pourquoi? C'est pas du tout pour minimiser la responsabilité des policiers, c'est simplement que je n'ai pas le dossier. Donc, moi, quand je ne suis pas dans une affaire, je n'aime pas en parler. Aujourd'hui, les policiers, on a vu qu'ils avaient des gestes de violence qui étaient durs. Mais s'arrêter et être chirurgical lorsqu'on est crevé, lorsque pendant 8 heures on a vécu un cauchemar et que des gens vous ont poignardé, vous ont lancé des pavés sur la figure, ont essayé par tous les moyens de porter atteinte à votre intégrité physique, eh bien rester chirurgical, c'est compliqué.
Est-ce que il y a parmi les témoignages de policiers que vous recevez depuis samedi dernier cette crainte que les gens viennent avec des armes samedi prochain, puisque ça fait partie des choses qui circulent sur les réseaux sociaux?
Ils ont déjà été confrontés à plusieurs reprises à des armes à feu dans le cadre d'émeutes de cité à Villers-le-Bel. On avait beaucoup tiré sur les policiers. à Beaumont-sur-Oise. On a aussi tiré sur les policiers récemment. Mais là, ils craignent le déploiement de ces armes à feu sur les Champs-Élysées, ce qui serait inédit. Vous savez, une hache, une batte de baseball, un cocktail Molotov, tout ça, ce sont des armes létales, ce sont des armes qui peuvent tuer. Et les policiers ont été confrontés à ça. Ils ont reçu des coups de couteau pendant les manifestations. Donc on a déjà tenté de les tuer.
Sur le soutien de l'opinion au mouvement, au fond, malgré les images de violence, le soutien de l'opinion reste massif à l'égard des Gilets jaunes. Et il y a beaucoup de gens dans l'opinion qui comprennent les violences. Comment recevez-vous cela ?
C'est extrêmement difficile à entendre, c'est inaudible la compréhension des violences, parce que moi je défends des hommes et des femmes qui sont vraiment des pères de famille, qui sont des gens bien, qui sont des gens qui se lèvent le matin pour aider les autres. Mais à un moment il va falloir quand même qu'on prenne ça en considération, ce sont les éboueurs de la société, les policiers. Ce sont des gens qui tous les jours ramassent ce que l'on fait de pire dans notre société et que vous pourriez avoir comme voisins et vous seriez content de les avoir comme voisins, parce que ce sont des gens qui ont des très grandes qualités personnelles et humaines. Donc je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir de taper sur ces gens-là.
Maître Liénard, entretien enregistré en milieu de matinée. Je vous parlais des premières plaintes pour d'éventuelles violences policières. Un collectif d'avocats, dont Maître Bourdon, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, vient de déposer une série de plaintes sur ce thème. Alors vous le savez, si vous avez l'habitude de ce journal de 13h, le jeudi, à partir d'une actualité en France, nous allons voir ailleurs en Europe. Comment ça se passe ailleurs en Europe ? Formule particulière cette semaine, pas de Delphine Simon. Non, quel regard nos voisins européens porte-t-il sur cette crise des Gilets jaunes ? Première étape, la Belgique. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Bruno.
La Belgique, Pierre, avec les Pays-Bas, c'est l'un des pays européens où les Gilets jaunes ont fait des petits.
Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes en France a suscité d'abord intérêt, puis enthousiasme en Belgique, avec une mobilisation qui a débuté quasiment en même temps, puisque dès le 17 novembre, les premiers Gilets jaunes belges ont commencé les blocages de ronds-points et de dépôts de carburant. Le point de départ était sensiblement le même, la protestation contre le prix élevé du diesel à la pompe. Il a baissé ce prix depuis, mais maintenant c'est l'expression d'un ras-le-bol généralisé contre la précarité, contre les taxes. Après l'enthousiasme, il y a aussi évidemment l'inquiétude des pouvoirs publics, après les dégradations commises près d'un dépôt de carburant, puis les affrontements lors de la manifestation bruxelloise de vendredi dernier, où par exemple une fourgonnette de police a été incendiée, et les Gilets jaunes promettent de revenir manifester samedi à Bruxelles et dans plusieurs villes de Wallonie. Notons d'ailleurs que ce mouvement est limité aux francophones et qu'il ne suscite que de l'indifférence en Flandre.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. À Bruxelles, côté institution européenne, on ne dit rien pour l'instant de très marquant sur ce gouvernement qui risque de laisser un tout petit peu filer les déficits avec les concessions de ces derniers jours. Emmanuel Macron, celui qui se voulait l'élève modèle en matière de tenue de budget, reste dans les clous, mais ça tire un peu plus et ça ne fâche pas tout le monde. Antonino Gallofaro, vous êtes en direct de Rome. Eh bien, le gouvernement de Rome, extrême droite populiste, ne pleure pas sur les difficultés d'Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et non, Emmanuel Macron, étant le grand ennemi de Matteo Salvini, l'homme fort de ce gouvernement populiste et anti-système, le chef de l'extrême droite italienne, se réjouit donc de voir parmi les Français fatigués du président de nouveaux supporters à sa cause, d'autant plus à quelques mois des élections européennes. Et les commentateurs politiques ici lui donnent même raison. En Italie, au pouvoir, ce sont justement des cousins, si on peut dire, des Gilets jaunes. Le mouvement de contestation des Falcone, d'il y a 5 ans, s'est rallié soit à la Ligue de Salvini, soit au mouvement 5 étoiles, les deux alliés aujourd'hui de gouvernement. L'affaiblissement d'Emmanuel Macron rend même service dès à présent à cet exécutif hybride. En guerre contre Bruxelles sur son projet de bilan 2019, il espère faire céder la Commission européenne. Pas question que Paris obtienne un déficit plus élevé quand celui de l'Italie, déjà plus faible, a été rejeté.
Merci Antonino en direct de Rome. Voilà pour ces deux regards européens sur la crise en France. L'actualité de l'Europe, c'est aussi le congrès de la CDU, le parti allemand, et l'élection du successeur d'Angela Merkel dans les heures et les jours à venir. Le début de la fin de règne pour Angela Merkel. Portrait des trois successeurs possibles sur franceinter.fr. En France, autre titre de l'actualité. Est-ce que vous vous sentez en insécurité ? C'est la question clé chaque année de l'étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Il y a trois tendances cette année. Petit 1, une forte augmentation du nombre de personnes s'estimant victimes de violences sexuelles. Petit 2, bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Victimes de cambriolage ou tentatives de cambriolage, elles sont à nouveau en forte hausse.
Oui, plus 21% en un an sur l'année 2017. Quasiment 570 000 ménages ont vécu une intrusion chez eux, ou du moins une tentative. On n'avait pas atteint un tel niveau depuis 12 ans. Pour vous donner une l'idée générale, ça se passe essentiellement l'été et en décembre, justement, plutôt dans les grandes villes et en région parisienne. Surtout, une fois sur trois, il y a quelqu'un dans la maison ou dans l'appartement, sauf que le plus souvent, cette personne n'entend et ne voit rien. L'enquête souligne également que dans 25% des cas de cambriolage, les victimes ne portent pas plainte. Alors, comment expliquer que ces chiffres repartent à la hausse? C'est une conjonction de facteurs. La focalisation peut-être de la police sur la lutte contre le terrorisme, la sortie de prison de membres de réseaux qui avaient été démantelés il y a 5-6 ans et qui, ça y est, ont purgé leur peine. On parle d'organisations criminelles venues souvent des Balkans et des pays de l'Est, ce qu'elles cherchent, un profit maximal, donc de l'or, pour un risque minimal. Or, seulement 13% des affaires de cambriolage sont élucidées.
Merci Laurélie. Et puis je parlais de trois tendances cette année. La troisième, c'est la hausse du nombre de personnes qui estiment avoir été victimes de violences de la part de pickpockets. L'actualité de l'économie en pleine mobilisation des Gilets jaunes, l'appel d'une trentaine de municipalités du Grand Paris et du sud de la France. La ville de Paris s'y associe, appelle à relancer l'encadrement des loyers. Et puis à l'origine de la contestation, il y avait le prix de l'essence, donc du baril. Eh bien les prix du pétrole chutent encore, moins 5% en cours d'échange européen. Ce matin, le baril de Brent est même passé sous les 60 dollars. L'actualité sportive, deux matchs nuls d'affilée en championnat pour Monaco, cela relève de l'exploit. Pour le PSG, c'est mauvais. Après un 2-2 à Bordeaux, un partout hier soir à Strasbourg pour les Parisiens. On rappelle qu'ils ont disputé 16 matchs, 14 victoires. Mais tout de même, que se passe-t-il au PSG, Guillaume Batin?
Le Paris Saint-Germain paye sans doute une période de surchauffe entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et les obligations en sélection. Ces deux matchs nuls face à Bordeaux et Strasbourg arrivent immédiatement après la trêve internationale. La fraîcheur a donc sans doute fait défaut aux champions de France lors de leur déplacement en Gironde et en Alsace face à des équipes qui jouent beaucoup moins. Edinson Cavani lui aussi joue moins qu'avant, souvent remplaçant. L'Uruguayen est littéralement éclipsé par le duo de stars Neymar et Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du club se plaint d'un manque de reconnaissance, une situation qui pourrait l'amener à partir et donc d'ores et déjà à moins s'investir. Et puis il y a également ce rendez-vous de mardi prochain en Serbie, capitale, le dernier de la phase de poule face à l'Étoile Rouge de Belgrade, où le PSG doit absolument s'imposer pour espérer disputer les huitièmes de finale en février et éviter une catastrophe industrielle. Une échéance qui pousse sans doute à la retenue sur le terrain, d'autant que la forme physique de certains est inquiétante. Il y a eu les deux alertes musculaires de Neymar aux adducteurs, le petit coup de froid d'Angel Di Maria et le genou de la Sanadia.
Merci Guillaume Batin. Et là encore, les Gilets jaunes se font sentir sur les terrains de football. Le match Saint-Étienne-Marseille, prévu dimanche, est reporté à la demande de la préfecture de la Loire. Il y a déjà trois autres matchs de reportés. PSG-Montpellier, Toulouse-Lyon et Monaco-Nice, reportés à cause des manifestations à venir ce week-end. L'actualité du sport, c'est encore le handball, l'Euro de handball. Premier match du tour principal ce soir à 18h. France-Danemark, ça se déroule à Nantes.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Pour Météo France, Elodie Calac.
Encore une journée bien maussade, beaucoup de nuages, quelques gouttes ici ou là, un peu plus de pluie sur le flanc est, près de la Manche aussi, avec du vent jusqu'à 50 km à l'heure. On peut espérer un petit rayon de soleil, mais il reste timide et fugace. Pour avoir des éclaircies, direction le pourtour méditerranéen, le bémol vient du vent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Une averse est possible sur l'est de la Corse. La douceur se maintient, on attend encore 11 à 19 degrés cet après-midi, les 11 degrés du côté d'Aurillac, 14 degrés à Reims, Strasbourg, Paris, 14 aussi à Dinard, Nantes, Bourges ou Lyon, 15 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 18 à Nîmes, Toulon, Ajaccio. Les 19 degrés sont pour Perpignan. Demain, toujours de la douceur, 10 à 13 degrés au nord, 14 à 18 au sud. De bonnes pluies et du vent arriveront par le nord-ouest et traverseront le pays. On ira chercher le soleil du côté de la Méditerranée.